Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1. Comment parler de privilège d'identité à Mathieu Bock-Côté ou à n'importe qui ignore ce que c'est? Tout d'abord, je dois expliquer ce qui m'a inspiré ce sujet. C'était il y a presque un an. Je suis tombé sur une entrevue de François Bousquet, l'éditeur de Georges Guiscard. Hein? Donc, Guiscard venait de lancer son livre « Le privilège blanc, qui veut la peau des Européens ?» Alors, pour des raisons légales, je ne peux pas partager cette entrevue, mais pour des raisons purement didactiques, je peux bien sûr vous lire un passage du livre pour vous donner une petite idée de ce qui m'a chicoté. Alors, je cite. Le privilège blanc est le nouveau péché originel, pour lequel on ne peut même plus être acheté ni pardonné. D'après la journaliste canadienne Barbara Kay, les Whiteness Studies professent que l'on peut atténuer son privilège blanc individuel, pas l'éradiquer. Le but est d'ancrer un sentiment d'éternelle victimisation des non-blancs et d'éternelle culpabilité des blancs. Il continue un peu plus loin. Cette idée de réparation pose un autre problème évident. Où s'arrêter? Fin de la citation. Alors, au moment où j'ai écouté cette entrevue, j'enseignais le français secondaire 4-5 aux adultes à Saint-Jean-sur-Richelieu. En amorce du cours, je voulais qu'en équipe, mes élèves tentent de mettre en commun ce qu'ils savaient du racisme systémique, avant de par la suite regarder une vidéo de RAD, de Radio-Canada, hein, sur le racisme. Pendant la période de plénière, j'ai un élève qui lève la main. Il me dit « Monsieur, je comprends pas cette affaire de privilège blanc. J'ai jamais rien eu de ma vie. Il a toujours fallu que je me batte en vie. Encore aujourd'hui, je vais me battre pour avoir la garde de ma famille. Fuck it! » Ok, je suis pas très bon pour faire les accents, vous le voyez clairement. Je m'excuse si je voulais pas ridiculiser ça. Mais je dois être honnête, sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. J'ai bégayé, j'ai hésité un instant et finalement, je lui ai simplement donné un exemple de discrimination sociale. Et je suis pas mal sûr de ne pas l'avoir convaincu. Pourquoi? Ben, parce que mon élève était un adulte de Saint-Jean-sur-Richelieu et que son lot de bagages personnels et d'expériences ne correspondait pas à ce que j'enseignais. Cet élève avait son propre parcours, son propre environnement qui était complètement différent du mien. Donc, en retournant à mon bureau, j'ai réalisé que j'avais jamais eu à expliquer le privilège d'identité à une autre personne qu'un converti. Hein? Et vous? Hein? Combien de fois avez-vous essayé de discuter de privilège d'identité, privilège blanc, avec quelqu'un qui est bien intentionné, mais qui n'est nullement conscient de son privilège, de son propre privilège? Et c'est ainsi que j'ai commencé à me demander ce que je répondrais aux Guiscard, Bousquet ou MBC de ce monde. Alors, dans mon parcours, j'ai d'abord commencé par lire Peggy McIntosh, hein, l'autrice de Unpacking the Invisible Knapsack, qui a lancé le terme justement de privilège blanc. Une lecture vraiment intéressante. Et ça m'a amené à un de ses collègues, Jimmy Hutt, qui est consultant en diversité, en inclusion à Minneapolis, et qui justement a écrit un petit guide pour parler du privilège d'identité, hein, qui m'aurait été bien utile à ce moment-là, mais aujourd'hui je vais vous le présenter le plus brièvement possible. Alors on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est le privilège d'identité? Hein? Alors, en gros, c'est tout bénéfice ou avantage non mérité que l'on reçoit dans la société en raison de la nature de son identité. Donc ça peut être la race, religion, identité de genre, orientation sexuelle, classe sociale, riche, pauvre, capacité ou statut de citoyenneté. Hein, ce sont tous des bons exemples de privilèges d'identité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, première étape, commencer par écouter. L'un des moyens les plus rapides de désarmer la défensive d'une personne à propos de son propre privilège et de prendre le temps d'écouter les façons dont elle n'a légitimement pas de privilège et de valider ses frustrations. Hod, d'ailleurs, justement, recommande un petit atelier qui serait intéressant justement à tester en classe et si jamais j'ai la chance, je le ferai. Alors, l'atelier consiste à demander aux gens de diviser un papier en deux. Hein? On demande à chaque personne de commencer du côté gauche du papier et d'écrire toutes les façons dont cette personne-là n'a pas de privilège d'identité. Donc les participants peuvent inclure tout. Ça peut aller jusqu'à être, par exemple, gaucher. Donc avoir des difficultés à utiliser un ordinateur ou le fait d'être une femme et d'avoir un écart salarial, etc. Ensuite, les gens écrivent sur l'autre côté toutes les façons dont leur identité leur accorde un privilège qu'ils n'ont pas mérité. À partir de là, les gens s'associent et font un exercice d'écoute où ils écoutent attentivement l'autre personne parler des deux côtés de leur liste. Cela permet aux gens d'exprimer leur frustration de se voir refuser le privilège tout en reconnaissant qu'ils ont effectivement un privilège. Ainsi, il est beaucoup plus facile d'aider les gens à comprendre le pouvoir du privilège dans la création d'un système d'oppression et comment l'élimination de ce système est libératrice et transformatrice pour tout le monde. Le simple fait d'écouter peut aller loin. De plus, c'est un point de départ pour les aider à développer de l'empathie pour ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges. Deuxième conseil, insister sur le fait que le privilège est relatif. Chaque personne fait l'expérience de ses privilèges et de l'absence de privilèges dans son propre contexte, dans sa communauté, avec les personnes avec lesquelles elle interagit à un moment précis. En tant que tel, le privilège est relatif et nous devons en parler de cette façon. Est-ce que tous les privilèges sont égaux? Bien sûr que non, hein? Moi-même, je suis droitier. Et je suis extrêmement content de ne pas avoir à faire d'acrobatie quand j'utilise mon ordinateur portable. C'est un privilège que j'ai par la nature de ma naissance. Cela ne veut pas dire cependant que mon privilège de droitier a le même poids ou la même responsabilité sociale que le privilège de ma couleur de peau, mon sexe, ma richesse, mon orientation sexuelle. Le fait est que nos identités sont complexes et intersectionnelles. Ce n'est pas parce que nous bénéficions d'une forme de privilège que nous bénéficions de toutes les formes de privilège. Troisième conseil, un système de privilège et d'oppression nous blesse tous. Ce que nous devons le plus souligner dans les discussions sur le privilège, c'est que ce système ne fait pas que nuire aux personnes qui ne peuvent pas se vanter d'une forme de privilège identitaire ou d'une autre. Ça fait mal à tout le monde. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous n'irons nulle part parce que les personnes privilégiées n'agiront jamais pour mettre fin au système qui leur permet de maintenir leur privilège. Prenez le privilège blanc par exemple. Le privilège blanc est essentiellement une construction sociale par laquelle les Européens riches voulaient s'assurer qu'ils pourraient consolider leur richesse en opposant les pauvres d'Europe aux pauvres Africains et aux peuples autochtones. Les Blancs ont été amenés à se sentir mieux dans leur peau et ont reçu des privilèges dérisoires sur les personnes de couleur afin de diviser le prolétariat blanc. Tout ce que cela signifie, c'est que les Blancs devaient être les seigneurs des gens de couleur, tandis que les Blancs riches avaient encore leurs bottes sur le cou des pauvres blancs. Ces privilèges ne nous aident pas autant en tant que blancs qu'ils nous font du mal. Les privilèges sont marginaux quand on regarde le système de justice qui peut se construire de l'autre côté de cette lutte. Quatrième conseil, privilège ne veut pas dire forcément culpabilité. Dans The Construction of Masculinity, Michael Kaufman décrit ainsi la culpabilité. On traduit ici librement, la culpabilité est une émotion profondément conservatrice et, en tant que telle, n'est pas particulièrement utile pour provoquer un changement. D'une position d'insécurité et de culpabilité, les gens ne changent pas ou n'inspirent pas les autres à changer. Fin de la citation. Alors, très souvent, lorsqu'on leur présente l'idée qu'ils ont un privilège, qu'ils n'ont pas mérité, les gens réagissent de deux manières différentes liées à la culpabilité. La première manière, l'esprit défensif. Je ne vais pas me sentir coupable de ce dont j'ai hérité. Si certaines personnes n'ont pas ces mêmes privilèges, ben tant pis. Deuxième, culpabilité paralysante. C'est tellement injuste. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai jamais demandé cela. Et une petite personne ne peut pas changer un système qui existe depuis des centaines d'années. Alors, dans les deux cas, nous devons rappeler à la personne en question que le sentiment de culpabilité n'a même pas besoin d'entrer dans l'équation. Ils ont raison. Ils n'ont rien fait pour mériter ces privilèges. Donc, se sentir coupable à leur sujet n'a pas beaucoup de sens. Rappeler à la personne qu'elle ne devrait pas se sentir coupable de son privilège, mais encouragez-la à agir pour saper le système en refusant de simplement vivre dans son privilège. Cinquième conseil, offrez des moyens concrets de saper le système de privilèges et d'oppression. Lorsque les gens se sentent paralysés ou sur la défensive face à la révélation d'un privilège, il peut parfois être utile de leur offrir de grands et de petits moyens d'être subversifs. Encouragez l'action plutôt que la stagnation. Proposez quelques moyens simples ou complexes pour que les gens soient plus conscients de leurs privilèges. Par exemple, si quelqu'un mentionne un schéma oppressif lié aux privilèges, c'est-à-dire les hommes dominent toujours les conversations et parlent aux femmes parce qu'on leur a appris que leur voix a plus de valeur. Bien, envisagez des moyens de choisir de ne pas participer à ce schéma. Par exemple, en étant conscient de la fréquence à laquelle vous parlez. Et reculez. Reculez. Et prenez plus de temps pour écouter. Investissez dans des relations responsables à travers la différence, pas dans de simples relations symboliques. Et écoutez ceux qui ne partagent pas le même privilège d'identité sur la façon dont cela affecte leur vie. L'écoute est le fondement de la justice. Si certaines personnes se voient refuser des droits ou des privilèges en raison d'une oppression formelle ou créée par l'État, bien refuser de participer à ces systèmes oppressifs. Par exemple, si vous êtes une personne blanche avec de la richesse, des enfants, choisissez d'investir et d'envoyer vos enfants dans une école publique, locale, de quartier, qui a un fort engagement envers la diversité et l'inclusion, plutôt qu'une école privée. En encourageant l'action, vous aidez non seulement la personne en question à s'engager, mais vous l'aidez à comprendre la nature même du privilège et son fonctionnement dans un système d'oppression. Conseil numéro 6. Faites-en une discussion d'action. Pas de personnalité ou de caractère. La discussion sur le privilège ne devrait pas porter sur le caractère d'une autre personne. Les privilèges réels dont nous héritons en raison de notre identité ne définissent pas notre caractère. Mais ce qu'il fait, c'est si nous choisissons d'agir pour changer le système d'oppression qui nous offre ces privilèges. En tant que tel, la conversation ne devrait pas être « Hey mon Christ de privilégié !» Au lieu de cela, ça devrait être « Comment pouvons-nous travailler pour contrôler notre privilège et saper le système d'oppression qui nous blesse tous ?» Cela permet aussi de désamorcer la rengaine des MBC de ce monde qui reprochent aux soi-disant bien-pensants de détruire la liberté d'expression. Alors, je les invite à nous rejoindre et à travailler sur les actions que nous pouvons entreprendre ensemble car c'est seulement ainsi que nous rendrons cette liberté de parole non seulement accessible, mais bien plus puissante. Merci à tous, c'était Walid Romani pour Document 1. À la prochaine!